Actually, the pulmonate comes from the mouth. Okay. Bienvenue à tous. Ce matin, je... non, c'est bon. On peut le dire. Donc, on commence ce matin avec un sujet qui est suggéré par Pierre. La dernière fois, il a donné le message. Et donc, il a dit quelque chose qui m'a fait penser à ce sujet-ci. Le temps de vous dire. Et donc, je vais explorer ce sujet ce matin avec vous. Et on peut le considérer le thème du temple de Dieu dans la Bible et dans nos vies aussi. Voici cette peinture, on peut dire, c'est une peinture faite par un artiste. Bien sûr, il n'y avait pas de photographie à l'époque, mille ans avant Jésus, mais ça, c'est une peinture du temple de Salomon. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? En fait, le temple de Dieu, où comment le Dieu invisible nous fait connaissance de sa présence. Le problème, c'est que en fait, il y avait un temple cher, beau, et c'est sûr que Dieu était vraiment glorifié dans son temple. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit où? Faut balader ici. Première voie, chapitre 6. Je ne vais pas tous lire, mais on peut dire que le temple était glorieux parce que c'était fait avec le bois de cyprès, les tranches de cyprès, des pierres magnifiques et de grande dimension, pierres de 10 coudées, en pierres de 8 coudées, c'était couvert d'or. Et donc, ça coûte cher, parce que le budget de Salomon, c'était illimité. Il peut écrire les chèques à tous, il peut payer tous, pas de problème. Donc, le temple était cher et glorieux. Donc, c'est sûr que Dieu était vraiment glorifié dans son temple et c'est ce que Dieu a demandé. Mais moi, je demande où est Dieu vraiment? Comment fait-il visible sa présence? Parce que à l'époque, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuit remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Mais quoi? Verset 27, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Vraiment? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oui, à moi cette maison que je t'ai bâtie. Et il demande à Dieu, il dit, Dieu sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière qui t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Donc, le temple représente la présence de Dieu. Mais Salomon dit, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Et c'est évident, Dieu est plus grand que l'univers. Et donc, comment mettre Dieu dans une boîte, dans un bâtiment? C'est impossible. Et donc, Salomon, il savait que c'est un peu ridicule de dire Dieu est dans une boîte et on ferme la porte. Et bon, Dieu est là et je peux faire quelque chose d'autre. Là, et Dieu ne me voit pas. Non. Il n'est pas dans une boîte, il n'est pas dans un bâtiment. Mais le temple fait visible la présence de Dieu. Donc, on peut voir que Dieu existe. Il est puissant, il est glorieux. Lorsqu'on voit le temple et ce qui se passe au temple, donc ça représente la gloire de Dieu et ça fait visible sa présence. Mais la question, ça me donne un paradoxe. Et après avoir le message de Pierre, il y a 3 semaines ou 4 semaines, dans ma tête, je suis arrivé à un paradoxe. Et le paradoxe, c'est celui-ci. Un Dieu qui veut rester invisible, comment fait-il visible sa présence? C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Un énigme. Parce que, imaginez, on peut faire une expérience hypothétique. Imaginez, tu reçois un appel téléphonique. Le téléphone sonne. Yes, c'est Dieu. Ok, oui. Il a besoin d'un peu de conseil. Vraiment. Ok. Il y a une nouvelle demande. Imaginez qu'une seule demande. Il n'y a pas assez de personnes. Il n'y a pas assez de personnes dans le monde qui croient en moi. Il n'y a pas assez de personnes dans le monde qui me glorifient. Donc, comment puis-je faire plus visible mon existence? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dirais si tu te demandes ces questions, si tu te poses ces questions? Si c'était moi, probablement je dirais qu'il faut. Vous connaissez bien le Super Bowl en Amérique, c'est le plus grand match du football américain, tout le monde le voit, les Américains le voient. Peut-être dans le centre du Super Bowl, ou peut-être dans le match de boxe, ou le Coupe du Monde, il peut faire une grande explosion pendant le match, et tout le monde peut voir une vision de Dieu. Et ça peut convaincre tout le monde que Dieu existe et il faut le glorifier. Ça, c'est mon idée. Mais en fait, Dieu ne fait pas quelque chose comme ça. En fait, il veut rester invisible, mais en même temps, il veut faire visible sa présence. Par hasard. Donc, comment fait-il ça? 1 Rois, chapitre 8, verset 41. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nombre, on saura que ton nom est grand. Comment vont-ils savoir? Comment vont-ils savoir que son nom est grand? Parce qu'ils vont voir le temple. Ils vont écouter, ils vont entendre de toutes les bonnes choses qui se passent au temple. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Donc le temple montre la présence de Dieu, même si Dieu lui-même ne fait pas les explosions ou les visions ou les choses miraculeuses, mais on peut voir Dieu, on peut voir la présence de Dieu au temple. Et donc on peut savoir que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il est glorifié, et toutes les choses comme ça que Dieu veut que l'homme comprenne. Ça se passe au temple. Ok, ça c'est la sagesse de Dieu et non pas de l'homme. Mais il y a des autres méthodes pour Dieu de faire visible sa présence. Par exemple, il reste invisible, mais on peut comprendre qu'il existe et qu'il est glorieux par la nature. Le roi David a écrit un psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Tout le monde peut voir la gloire de Dieu, son miracle, mais dans la nature. On peut voir que Dieu existe, qu'il est puissant et qu'il faut le glorifier. Et donc, il fait visible sa gloire par la nature. Troisième méthode que Dieu fait visible de sa présence dans ses peuples. Matthieu chapitre 5 et verset 16, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc on peut dire les hommes glorifient Dieu lorsqu'ils regardent les bonnes œuvres de son peuple. Donc, on peut voir que Dieu existe, qu'il est puissant et qu'il est glorifié lorsqu'on regarde ce que son peuple fait. On attend ça. Ça, c'est le but. Et c'est quelque chose que Dieu attend. C'est que nous réfléchissons la gloire de Dieu et que nous démontrons la gloire de Dieu dans nos vies. Ouais, c'est la présence de Dieu. Non, je pense qu'il veut faire visible c'est le diable qui bloque. C'est la présence du diable. Ok. Donc.
Oh, Donc, 1er roi, chapitre 6. Pendant la construction du temple, Salomon, il a fait le budget, il était pour les pierres, l'or, tout ça. Et le temple est en cours de construction. Okay, bon. Et pendant ça, Salomon reçut un appel téléphonique, pas téléphonique, mais reçut un appel de Dieu, qui dit, 1er roi, chapitre 6, et en fait, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Donc, le message de Dieu, c'est « Attention, Salomon, voici ce que je veux vraiment. » Ce n'est pas juste un bâtiment que je veux. En fait, je voudrais un peuple qui suit mes lois. Et ça, c'est plus important que le bâtiment. Et on peut savoir, parce qu'on continue dans la Bible, Jérémie chapitre 7, le prophète qui habite, qui vivait, on peut dire, environ 600 ans avant Jésus. En fait, dans cette époque-là, Israël, la ville de Jérusalem était menacée par les Babyloniens. Et en fait, la destruction va arriver bientôt. Parce que les peuples ne respectaient pas les lois de Dieu. Et Jérémie le prophète, il a dit en chapitre 7, « Reformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. » En disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Il y avait une fausse confiance dans le temple. Ils ont mis leur confiance dans le temple parce que le bâtiment, nous avons le bâtiment, donc nous sommes sauvés. Et rien ne peut se passer de mauvais pour nous parce que nous avons le temple. Et Dieu va nous sauver parce que nous avons le temple. Et le prophète a dit, il faut penser encore. Parce que le temple lui-même ne suffit pas. Il faut avoir les lois de Dieu dans ton cœur. Il continue, il dit, mais voici vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au temple pour faire le culte à Dieu, et puis le reste de la semaine, ils vivent comme le diable. Ils pensent qu'on peut, glorifier Dieu comme ça, mais non, c'est impossible. Et le temple ne fait pas saint le peuple qui vit comme le diable, on ne peut pas mélanger les deux comme ça. Et donc le temple ne va pas sauver le peuple comme ça. Et il continue, il dit, verset 14, « Et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo, c'était une ville dans le nord d'Israël qui était abandonnée par Dieu, et je vous rejetterai loin de ma face comme j'ai rejeté tous vos frères. » Donc la conclusion, que je trouve là, c'est que Dieu préfère aucun temple qu'un beau temple assisté par les hypocrites. Parce que Dieu a dit explicitement au prophète, je vais abandonner le temple. Je vais le laisser détruit. Parce que vous ne me respectez pas. Et donc, je préfère aucun temple. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé en 586 ans avant Jésus. En fait, il avait la captivité babylonienne et la destruction de Jérusalem et le temple. Exactement comme le prophète a dit en avant. Ok, bon, c'était mauvais. Mais, heureusement, Dieu a donné une deuxième opportunité de reconstruire le temple, de refaire, de restaurer le culte, le sacerdoce, les sacrifices, toutes les choses nécessaires pour avoir une relation entre les Juifs et Dieu. Le temple a été restauré environ 516 ans avant Jésus. Donc, c'est bon. En fait, dans Ezra chapitre 3, verset 10 et suivant, on peut lire exactement ce qui s'est passé. En fait, il y avait les cris de joie. Le temple est restauré. On a refait le temple. Maintenant, on peut faire le bon culte à Dieu. Et c'était bon. Et en fait, Ezra il dit, mais il y avait des âgés, des vieux, qui se souvenaient le premier temple et qui crient avec tristesse parce que le deuxième temple n'est pas assez grand, n'est pas aussi grand, n'est pas aussi glorieux que le premier temple. Mais ok, mais au moins il y a un temple encore. Et on peut faire le culte à Dieu. On peut adorer Dieu maintenant dans le deuxième temple. Donc c'est une deuxième opportunité de glorifier Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Environ 19 ans avant Jésus-Christ, Hérode le Grand, comme il était appelé, il a commencé un projet d'améliorer le temple, de grandir le temple, de faire plus glorieux le temple, avec plus de pierres, plus d'or. Et il a eu un grand budget, pas comme Salomon, mais assez grand. Et donc, ce projet-ci continuait même après sa mort. Et donc, en Jean chapitre 2, verset 18, les Juifs, prenant la parole, lui dire, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Donc 46 ans, c'est-à-dire, c'est le projet d'Hérode, 19 ans avant Jésus, et puis ça continue à ce point-là, 46 ans, pour, pas un troisième temple, mais pour restaurer, pour améliorer le deuxième temple. Et c'est ça que les Juifs, c'est ça dont ils parlent. Donc, quels sont les résultats de ça? Marc chapitre 13, verset 1, « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc, après tout ça, Hérode a dépensé, et le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour améliorer le temple, pour faire plus glorieux, plus cher le temple. Et puis, en 70, après Jésus, c'était détruit encore. Alors, pourquoi? En fait, Dieu n'a qu'un temple. Il est impossible d'avoir deux temples en même temps, deux, trois ou quatre, n'importe combien. Dieu n'a qu'un temple. Dans l'Ancien Testament, il avait un temple à Jérusalem, c'était le bâtiment fait par Salomon, puis le bâtiment fait en 516, puis amélioré par Hérode, puis c'était détruit. Mais Dieu a encore un temple. Un temple, exactement un temple. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, « Même si le temple des Juifs était détruit, il reste un temple. » Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Que nous sommes le temple. du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Rappelez Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est nous qui font le temple de Dieu, c'est nous qui représentons Dieu sur la terre. En fait, j'ai une peinture et une photo, et c'est impossible de le faire là. Je vais le faire avec. Ça ne marche pas. Ah. Impossible à quoi, mais je suis informaticien, si vous croyez. Voilà. OK. Pouvez-vous voir cette photo? Ça, c'est le temple de Dieu.
C'est une petite maison très pauvre qui va tomber dans 5 minutes.
Okay. Imaginez, nous voulons reconstruire le temple aujourd'hui. Imaginez ça. Et nous faisons un budget de 10 euros.
On peut construire quelque chose comme ça. Donc, avec 10 euros, probablement, on peut faire. Et on met ça dans le centre de l'île, dans un rond-point de l'île. Et on met le panneau à côté, c'est le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'on va penser quelle petite de Dieu est représentée par ça. Ça c'est Dieu, ça représente Dieu, vraiment. Ce n'est pas un Dieu puissant, c'est un Dieu faible. C'est un Dieu qui n'a pas beaucoup de gens qui le suivent. Parce que c'est tout ce qu'il peut faire.
Donc, ça ne glorifie pas Dieu, en fait. En fait, Dieu a honte de ça, en fait, si on fait ça. C'est évident. C'est une très, très mauvaise représentation de Dieu. Et ça va donner une mauvaise réputation de Dieu dans cette communauté. Et moi, je ne veux pas être associé avec ça. Et Dieu ne veut pas avoir ça non plus. C'est évident. Et c'est ridicule de faire quelque chose comme ça pour Dieu. Imaginez. L'image que la Bible dit. Nous sommes le temple. Imaginez ma vie si ma vie est corrompue. Si ma vie n'est pas ce que Dieu veut, quelle sorte de temple est-ce que j'ai construit pour Dieu? Nous sommes le temple et nous construisons quelque chose laide, quelque chose qui ne représente pas la gloire de Dieu. Ça, c'est le temple de Dieu. C'est ça que nous faisons dans la communauté. Si nous ne vivons pas comme Dieu a commandé, nous faisons un temple exactement comme ça. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes un saint sacerdoce, nous sommes le temple. C'est parmi nous où on trouve les sacrifices, c'est parmi nous où on trouve la gloire de Dieu dans cette communauté. Donc, nous réfléchissons la gloire de Dieu, nous faisons visible la présence de Dieu. Nous espérons. Est-ce que c'est vrai? Quel type de temple faisons-nous? Ça, c'est la question du jour. Est-ce que nous faisons un temple comme Salomon, avec les pierres chères, avec l'or, avec les grands bâtiments glorieux, qui fait visible la présence de Dieu dans cette communauté? Est-ce que nous construisons une maison avec un budget de 10 euros qui va tomber dans 5 minutes? Ça, c'est la question que je vous présente maintenant.
quel type de temple êtes-vous? Donc pensez à ça. Essayons à faire un temple glorieux. Ce que Dieu peut dire, oui, ça c'est mon temple. Ce qui ne pose pas donc de Dieu. Merci beaucoup.